I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'heure des produits du vendredi. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct jusqu'à 21h sur CNews avec les invités du soir. Les présentations dans une poignée de secondes. D'abord, le rappel de l'actualité, Adrien Spiteri.
Vladimir Poutine officialise l'annexion de 4 territoires d'Ukraine. Elle concerne les régions de Donetsk, Lugansk, Zaporijia et Kherson. Dans son discours, le président russe a fustigé l'Occident. Il appelle Kiev à cesser les hostilités. Des annexions condamnées par Emmanuel Macron. Le président français parle, je cite, d'une violation grave du droit international. Il assure que la France se tient aux côtés de l'Ukraine pour faire face à l'agression de la Russie. Même son de cloche à Washington. Dans un communiqué de Joe Biden, comme son homologue français parle, je cite, d'une violation du droit international. Le président américain promet de nouvelles sanctions contre la Russie et ses potentiels soutiens. Il assure que Washington continuera d'aider l'Ukraine pour regagner le contrôle de son territoire. Et puis Cédric Jubilard, maintenu en détention. La Cour de cassation a annoncé ce vendredi le rejet d'un recours de ses avocats. Il cherche depuis plus d'un an à obtenir sa mise en liberté. L'homme est soupçonné du meurtre de sa femme Delphine. Les enquêteurs affirment détenir des indices graves et concordants l'incriminant.
Et pour vous accompagner en ce vendredi soir, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir, chère Elisabeth. Julien. Bonsoir à Jean-Loup Bonamy, prof de philosophie, spécialiste en géopolitique. Ravi de vous avoir ce soir, tout comme Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Bonsoir. Politique. Bonsoir, cher Frédéric. Bonsoir, cher Kevin Bossuet, professeur d'histoire en banlieue parisienne. Évidemment que notre premier sujet du soir, il concerne Vladimir Poutine et le président russe qui a formalisé aujourd'hui à Moscou l'annexion par la Russie de 4 régions ukrainiennes, largement dénoncées par Kiev et les alliés occidentaux. Après un long discours au Kremlin sur lequel on va revenir dans quelques instants, s'en est suivi, et vous voyez les images, une sorte de fête nationale sur la place Rouge pour exalter le sentiment patriotique russe. Vladimir Poutine qui a fait une brève apparition pour s'adresser à la foule.
Aujourd'hui, c'est un jour particulier, un jour festif et un jour historique sans aucune exagération, une journée de vérité et de justice. Nous disons que la Russie ouvre les portes de sa propre maison à nos frères et à nos sœurs, mais elle ouvre également son cœur. Bienvenue à la maison. Nous sommes devenus plus forts, et ce parce que nous sommes ensemble. La vérité est derrière nous, et la vérité, c'est la force. Et donc, la victoire, et la victoire nous appartiendra.
C'était un jour important, Jean-Loup Bonamy. Il y a beaucoup de choses à décrypter sur ce qui s'est dit sur la place Rouge, mais particulièrement au Kremlin, on va l'entendre dans un instant. Ce qui est étonnant, frappant dans un premier temps, c'est de voir un homme qui est un chef de guerre, qui apparaît comme un chef de guerre victorieux, qui vient exalter, ressouder les troupes russes, alors que cette guerre, c'est quasiment déjà une défaite pour lui.
Alors, je vais faire une réponse. Alors, il est certain que l'armée russe rencontre actuellement de graves difficultés sur le terrain. Il est certain que les choses ne se passent pas comme Vladimir Poutine avait souhaité et aurait aimé qu'elles se passent. Je n'irai pas, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, peut-être à l'avenir, mais dans l'état actuel des choses, je ne parlerai pas de défaite.
Je vais étayer mon propos. Il n'a pas renversé Kiev. Non, mais il ne tient pas complètement le Donbass. Il voulait éviter que l'Ukraine vire vers l'Occident. C'est comme si c'était fait. Il voulait empêcher l'élargissement de l'OTAN. C'est perdu aussi. La question, c'est comment est-ce qu'il peut s'en sortir désormais.
Il n'y a pas de défaite. Et par ailleurs, vous soulignez à juste titre un écart entre le ton victorieux de ces proclamations et les difficultés réelles, même si ce n'est pas une défaite, ce n'est pas encore une défaite, les difficultés réelles de l'armée russe sur le terrain. Mais il ne faut pas oublier, vous avez peut-être lu Tintin au pays des Soviets, ou alors dans un autre genre,
le premier Tintin d'ailleurs,
Hélène Carrère d'Ancos, qui explique que la Russie, politiquement, la culture politique de la Russie, c'est la culture du faux. C'est constamment de construire en toc. Vous savez, déjà au temps de l'impératrice Catherine II, son ministre Potemkin lui faisait visiter les fameux villages Potemkin qui étaient entièrement en toc et qui étaient des faux villages où on l'acclamait mais qui étaient montés en carton-pâte. Donc la Russie, ce n'est pas de la faute de Vladimir Poutine, c'est une tradition longue qui va des tsars jusqu'à Poutine en passant par Staline, c'est le pays du faux en politique. Donc, faut pas forcément s'en étonner. On est, comme sur beaucoup de points, comme sur l'Ukraine, comme sur beaucoup de choses, dans la longue continuité de l'histoire russe.
Il y a eu cette longue exaltation patriotique, ces concerts sur la Place Rouge, ces milliers de personnes, drapeaux en main, et Vladimir Poutine qui est apparu un peu plus tôt. Elisabeth, je vous entendrai, mais je vais rappeler à nos téléspectateurs, on a eu un discours de 45 minutes au Kremlin pour officialiser donc l'annexion par la Russie des 4 territoires de l'Est de l'Ukraine. Pas de retour en arrière possible pour Poutine. Ils sont nos citoyens pour toujours, affirme le président russe. Pas de négociation sur ces territoires, dit-il, en appelant dans le même temps l'Ukraine à reprendre les négociations. Par ailleurs, il promet de protéger la Russie par tous les moyens. Dans son discours, il s'est aussi longuement pris à l'Occident, qu'il accuse notamment d'être à l'origine des explosions des gazoducs en mer Baltique. Cette confrontation avec l'Occident a donc pris une large partie de son discours. Écoutez ce premier extrait et on en discute évidemment ensemble.
Nous voyons un mouvement anticolonial libérateur qui s'élève contre cette hégémonie et cela ne fera que se renforcer et cette force déterminera l'avenir de la réalité géopolitique. Chers amis, aujourd'hui nous nous battons pour notre liberté. Pour nous, pour la Russie, pour que le diktat et le despotisme soient révolus. Nous devons tourner cette page honteuse. Et la fin de l'hégémonie occidentale est irréversible. Ce champ de bataille, aujourd'hui, c'est une bataille pour nous, pour notre peuple, pour la grande Russie. Que personne ne pense que la Russie, que notre peuple, que notre culture, que notre langue puissent être effacées de l'histoire.
Elisabeth Lévy, on est toujours peu ou prou dans la même rhétorique. La grande Russie historique contre l'Occident.
Oui, alors il y a quand même une chose. Nous, on est occidentaux, donc on a tendance à voir les choses par notre biais. Mais il n'a pas complètement tort quand il dit que ce n'est pas la Russie contre le reste du monde. Non, mais ça, je vois Kevin qui me regarde avec un œil sévère. Je n'ai pas dit.
Vous allez discuter les uns les autres.
Cher Kevin, je voulais juste dire que effectivement, ne croyons pas que le monde c'est l'Amérique et l'Europe. Il y a d'autres pays. Et
c'est assez habile comme discours d'ailleurs.
Comment ?
C'est assez habile ce discours
oui,
parce qu'il touche l'océan.
Bien sûr, en fait, je remarquais
il
d'ailleurs.
Il s'est adressé à l'ensemble de la planète, sauf à l'Occident finalement aujourd'hui.
Je remarquais d'ailleurs, je ne sais plus quand, sur ce plateau, que une partie des critiques qu'il fait à l'Occident sur notre déclin, nous les formulons nous-mêmes assez souvent sur ce plateau. Donc, si vous voulez, on peut toujours dire que c'est un satrape et faire comme si tout était complètement dénué de tout fond. Mais c'est pas tout à fait vrai. Non, il y a une chose que je voudrais ajouter à ce qu'a dit Jean-Loup, c'est que, en fait, je pense qu'il y a 2 ans, avant que la guerre en Ukraine commence, les régions du Donbass, je mettrai la Crimée à part. La Crimée, c'est un peu un cas différent. Mais les régions du Donbass étaient très pro-russes. Il a aussi réussi non seulement à quand même créer, disons, en tous les cas, solidifier un sentiment national ukrainien qui était quand même beaucoup moins évident il y a 2 ou 3 ans, je pense. Mais il a aussi réussi à coaliser contre lui une partie des populations du Donbass. L'armée russe n'a pas été visiblement, d'après ce qu'on en sait, accueillie en grande libératrice. Donc, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'évidemment, à partir du moment où il dit c'est la Russie, il nous met au pied du mur. Il met les Occidentaux au pied du mur. Que va-t-il se passer là-dessus? Est-ce qu'il va y avoir un élément de négociation? Et juste, dernière chose, là, il faut l'entendre. Je crois que, moi, j'ai entendu, y compris sur ce plateau, tout le monde prendre comme argent comptant que c'était les Russes qui avaient saboté ces gazoducs. Je n'en ai pas la moindre certitude. Et d'ailleurs, je ne vois pas bien Je ne vois pas honnêtement leur intérêt. Ils peuvent très bien ne pas nous vendre de gaz, ne pas faire circuler leur gaz. Ils veulent pas le faire. Donc ça me. Je pense qu'on devrait être assez.
En tout cas, lui évidemment, et on l'entendra tout à l'heure, prétend que ce sont les Occidentaux, les Anglo-Saxons non, moi, je précisément sais pas qui ont fait exploser ces gazoducs. Emmanuel Macron qui condamne fermement l'annexion illégale par la Russie des régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Zaporijja et Kherson. Il s'agit là, selon le chef de l'État, d'une grave violation du droit international. Comme de la souveraineté ukrainienne. Washington prévient de son côté que le G7 sanctionnera tout pays soutenant la Russie après les annexions de l'Ukraine. Le président Biden qui a également condamné la déclaration d'annexion frauduleuse de la Russie. On peut considérer ce qui s'est passé aujourd'hui comme une nouvelle escalade dans ce conflit, Kevin Bossuet ?
Oui, bien sûr, c'est une nouvelle escalade parce que ces territoires annexés, finalement, ça n'a aucune valeur. Ces référendums n'ont aucune valeur. Mais moi, ce qui me parle, vraiment, ce qui me choque, c'est l'ampleur de ces territoires. Quand vous ajoutez la superficie de tous ces territoires, c'est la même superficie que le Portugal. Je veux dire, j'ai l'impression, moi, ça me fait penser à l'annexion des pays baltes par Staline ou encore à l'Anschluss dans la première partie du 20e siècle. Mais moi, ce qui me marque dans ce discours, c'est la politique fiction, c'est le décalage par rapport à la réalité. D'ailleurs, quand vous regardez les gens qui étaient dans la salle, ils ont tous 60, 70 ans, alors qu'en Russie, les jeunes sont en train de partir. Quand vous regardez...
Après, sur la place rouge, il y avait des familles, des jeunes, oui. Des femmes, des enfants...
Les jeunes sont en train de partir, non, mais c'est peut-être exagéré. Non,
mais les jeunes, mais il y a de la propagande des deux côtés, c'est ça le problème.
Ils ont fait des études, s'en vont. Et surtout, au niveau international, on voit bien que l'Inde est en train progressivement de lâcher la Russie. On voit bien que la Chine est en train de lâcher la Russie. Même le Kazakhstan...
Oui, mais le discours d'aujourd'hui est un discours qui va rassembler une grande partie des pays du Sud. Le discours qu'il tient sur l'Occident est un discours qui est partagé au Moyen-Orient, en Afrique, et il peut vraiment... Je trouve qu'il a été habile de son point de vue. Évidemment, il a balayé l'aspect militaire, il s'est consacré aux valeurs, il change de champ de vision, il fait appel à ses potentiels alliés et pas à ses ennemis. Qu'il a marqué des points aujourd'hui.
Il s'adresse aussi aux opinions publiques occidentales, parce qu'il s'adresse aussi aux Hongrois ou par exemple aux Italiens qui ont voté très largement pour des dirigeants qui partagent les valeurs qui ont été mises en avant par Vladimir Poutine.
C'est pas le cas de Mélanie qui a soutenu les Ukrainiens.
Frédéric Durand, qu'on n'a pas encore entendu.
Sur la Hongrie et sur l'Italie, c'est pas pareil, puisque l'Italie est plutôt un Mélanie pro-OTAN, tandis que la Hongrie, c'est autre chose.
Donc, sur les valeurs chrétiennes.
Juste deux mots, parce qu'il y a un aspect qui me semble important qui n'a pas été évoqué. Mm-hmm. C'est que si, effectivement, ces territoires sont désormais russes dans la tête de Poutine, alors il peut les défendre avec l'arme nucléaire, puisque ça fait partie, évidemment...
Et ben vous me permettez de lancer le prochain extrait.
Donc ça, juste sur ce point-là, déjà, ça peut être inquiétant, parce qu'il leur dit, en gros, maintenant, si vous venez dans ces régions-là, alors c'est l'intégrité du territoire.
Et c'est l'exacte raison pour laquelle il a fait ces référendums.
Tout à fait. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, effectivement, il y a Elisabeth le disait, mais les valeurs de l'Occident, ça fait 300-400 ans que l'Occident domine le monde, mais c'est pas éternel. Et il y a dans la tête une désoccidentalisation du monde, en vérité, dans la tête de Poutine. C'est-à-dire qu'il met, parce que vous disiez tout à l'heure, il parle à tout le monde sauf aux Occidentaux, moi je parle
un peu,
il parle avant tout aux Occidentaux pour les défier. Évidemment. Et pour leur dire, en gros, voilà, nous, votre modèle capitaliste libéral, on le conteste, votre modèle
c'est
de domination.
Appel
il appelle colonisation, volonté de colonisation, donc il fait... Depuis très longtemps,
appel à
des discours, voilà. Et il dit, nous voulons plus que l'Occident ait le leadership du monde. C'est ça qu'il dit, en gros. Oui. Et donc, c'est le cheval de Troie, un peu de cette désoccidentalisation du monde voulue par Poutine. Et donc, je pense que ça va au-delà, effectivement. C'est pour ça que je parle un peu de cheval de Troie, parce que ça va au-delà d'autres pays qui, effectivement, se sont éloignés pour des raisons où chacun fait ses comptes, chacun regarde ses intérêts. On parlait de l'Inde, voire de la Chine. Mais ils sont dans le même état d'esprit quant à la domination occidentale, en réalité. Ils en ont marre. Pourquoi? Enfin, je vais pas rappeler, mais vous savez, la montée de la bourgeoisie, par exemple, en France, dans l'histoire, ça a fait qu'ils avaient le pouvoir économique sans avoir le pouvoir politique. Là, on assiste à la même chose d'une certaine manière. Ça veut dire des pays qui sont pas seulement émergents aujourd'hui, qui gagnent en puissance économique énormément. C'est le cas de la Chine, notamment, et qui continuent d'être dominés culturellement, idéologiquement. Ils n'en veulent plus. Donc, il y a une bataille de modèles.
Je pense qu'il y a. Non, mais
je voudrais juste entendre l'extrait parce qu'il en a parlé justement Frédéric Durand de cette volonté de protéger la Russie par tous les moyens, donc évidemment sous-entendu l'arme nucléaire. Il l'a répété tout à l'heure, Vladimir Poutine, écoutez-le. Elisabeth, promis, vous prenez la parole derrière.
Oui, mais c'est là-dessus que je voulais
réagir. Mais c'est pas grave.
Aujourd'hui, le régime de Kiev doit s'exprimer, doit respecter le choix du peuple. Et c'est seulement ainsi que nous pourrons revenir à la paix. Nous défendrons nos terres par tous les moyens et les forces dont nous disposons. Nous ferons tout ce qui est possible pour assurer la vie et la sécurité de nos habitants. C'est la grande mission libératrice de notre peuple. Nous reconstruirons les villes et les villages qui ont été détruits, les habitations, les écoles, les théâtres, les musées. Nous développerons l'industrie, les usines, les infrastructures, les systèmes sociaux, les retraites, la santé, etc.
On est dans une impasse ce soir, Elisabeth Lévy.
Oui, bah c'est ce que Frédéric l'a excellemment dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes un peu au pied du mur. Si, effectivement, ils considèrent ces territoires, jusque-là, ces intérêts vitaux n'étaient clairement pas menacés. Si vous voulez. Donc, effectivement, sur le papier, si vous voulez, ça lui donne l'autorisation d'utiliser l'arme nucléaire. Cependant, si vous voulez, je crois quand même que les rapports de force, ça joue dans ce genre de cas. Et je ne suis pas sûr que Poutine ait intérêt aujourd'hui
à faire. Quelle riposte s'il tire un missile sur l'Ukraine? Quelle riposte de l'Occident? Vous croyez que Joe Biden a envie de perdre Washington, que Emmanuel Macron a envie de perdre Paris, que l'Istres a envie de perdre Londres?
Écoutez, d'abord, il y a des armes nucléaires tactiques qui permettent de ne pas monter directement. Bah, c'est ça, la doctrine de la dissuasion, c'est ça. Il y a des montées en escalier, je ne me rappelle plus comment on appelait ça. Au début de la dissuasion, il n'y avait que les grosses bombes. Oui. On appelait ça MAD, Mutual Assured Destruction. Oula. Mais aujourd'hui, vous avez des armes nucléaires tactiques et ce qu'on appelle la riposte graduée éventuelle. Mais encore une fois, je crois qu'on joue aussi un peu à se faire peur. Peut-être que je me trompe complètement, mais je pense que Poutine utilise ça pour nous faire peur. Maintenant, je peux me tromper. En revanche, je voulais dire un mot juste sur la question de l'Occident, parce qu'il y a une très mauvaise nouvelle pour l'Occident dans cette affaire. Mm-hmm. Si vous voulez, c'est que au lieu de voir ce qu'on espérait, je parle la guerre en Ukraine mise à part, c'est-à-dire une reprise en main par l'Europe de sa propre souveraineté, on assiste au contraire, à la faveur de cette guerre, si vous voulez, à un renforcement écrasant de la domination américaine et de la domination demandée. C'est-à-dire que la plupart des pays de l'OTAN, les pays européens de l'OTAN, Allemagne y compris, l'Allemagne n'a aucune envie de dépendre de la défense française, elle préfère très largement dépendre de la défense américaine. Et ça, c'est pour nous, à long terme, une très mauvaise nouvelle.
La servitude volontaire.
Oui.
Écoutez, Volodymyr Zelensky.
Ils sont riches et ils sont loin. Comme on dit, tant qu'avoir un maître, il vaut mieux qu'il soit riche et qu'il soit loin.
Le président ukrainien qui a réagi tout à l'heure depuis Kiev, il insiste une nouvelle fois pour adhérer à l'OTAN et refuse de négocier avec Vladimir Poutine.
Oui, écoutez-le.
Nous nous faisons confiance, nous nous aidons et nous nous protégeons mutuellement. Voilà ce qu'est l'alliance de facto. Aujourd'hui, l'Ukraine demande à la rendre de jurer. Selon une procédure conforme à l'importance que nous accordons à la protection de l'ensemble de notre communauté, dans le cadre d'une procédure accélérée. Le président Poutine ne sait pas ce que sont la dignité et l'honnêteté. Par conséquent, nous sommes prêts à un dialogue avec la Russie, mais avec un autre président de la Russie.
Jean-Luc Bonamy, est-ce qu'il fait une erreur, Volodymyr Zelensky, en prononçant ces mots? Est-ce qu'il joue un peu avec la boîte d'allumettes, là?
Ouais, c'est compliqué à dire. C'est-à-dire que si ces mots sont sérieux et sont à prendre au pied de la lettre, oui. Mais après, il faudrait savoir ce qu'il y a derrière et nous ne le savons pas. Par contre, ce qu'on peut dire en parallèle sur les référendums organisés par Vladimir Poutine, c'est que déjà, ça, d'un certain sens, ça crée le risque de créer une Alsace-Lorraine à nouveau au cœur de l'Europe. C'est-à-dire que si les Ukrainiens réussissent à récupérer ces territoires, les Russes, et notamment la partie la plus nationaliste de l'opinion russe, considérera que ces territoires sont à eux et voudra les reprendre par la suite, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, avec Poutine ou avec quelqu'un d'autre. Et si les Russes conservent ces territoires, ce sont les Ukrainiens qui ne le digéreront jamais. Donc ça crée une forme d'Alsace-Lorraine au cœur de l'Europe. Et par contre, je pense que dans le choix de Vladimir Poutine, il y a un peu simultanément, dans le choix des référendums, la stratégie de la carotte et du bâton. C'est-à-dire de dire, écoutez, j'ai réussi à prendre ces territoires, je les garde, maintenant ça fait partie de la Russie. Si vous ne l'acceptez pas, on va à l'escalade et c'est potentiellement la frappe nucléaire. Par contre, comme je rencontre quand même des difficultés sur le terrain et que j'ai du mal à aller plus loin, je signifie aussi par ces référendums que je ne chercherai pas forcément à aller plus loin. Je vous montre ce que je veux. Donc, vous l'acceptez et on peut trouver une désescalade, je peux rétablir mes livraisons en gaz, on ne va pas vers la catastrophe nucléaire. Si, par contre, donc voilà, je vous dis ce que je veux et je ne voudrais pas forcément plus. Par contre, si, donc je suis prêt à négocier et je revois mes ambitions à la baisse. Par contre, si vous ne le voulez pas, eh ben, ça fait partie du territoire russe et on va à l'escalade.
Non mais ce que vous décrivez là, mon ami, c'est le scénario de la Crimée. Sauf que c'est impossible aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire que ce scénario de la Crimée, il était possible dans un contexte de tension internationale moindre. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un acmé de la tension internationale. Et donc, ce que Poutine a pu faire avec la Crimée, il ne peut pas le faire aujourd'hui avec cette région-là.
Il brandit la menace atomique.
Oui, mais non, mais je veux dire que vous décriviez le scénario qui, effectivement, est le scénario de la Crimée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, les tensions internationales s'apaisent.
Il était peut-être moins en frontal avec les États-Unis et le Iran au moment de la Crimée aussi.
Je pense qu'il y a un autre enjeu qui rend impossible le scénario de la Crimée, c'est que c'est allé beaucoup trop loin. Et que si l'Occident aujourd'hui acceptait ce que l'Occident a accepté pour la Crimée, alors il y aurait un aveu de faiblesse tel qu'effectivement, le problème de tout l'Occident, ce serait de s'être mis un peu à genoux.
Mais c'est vrai. Voilà. Vous avez raison, Frédéric, mais le problème, c'est que quand vous allez dire aux Européens qu'il faut aller mourir pour le Donbass, je ne suis pas sûr que ça leur plaira ou qu'il faut prendre le risque de mourir pour le Donbass dans un...
Mais vous savez, les Russes non plus.
De toute façon, même nous...
Oui, mais nous, on est quand même... Il y a des médias, il y a des... Vous voyez, c'est pas tout à fait la même mot qu'en Russie.
Je pense d'ailleurs que Vladimir Poutine est assez d'accord avec votre analyse. Et c'est pour ça, parce qu'il se rend bien compte de l'impasse et de la difficulté que le scénario, la situation n'est plus la même qu'en Crimée, qui brandit la menace atomique pour essayer aussi de mettre quelque chose de nouveau dans l'équation.
Et l'Union européenne, l'Occident, les États-Unis, au milieu de tout ça, il est légitime d'aider l'Ukraine. A priori, tout le monde est d'accord là-dessus, à se défendre, mais il faudrait éviter que tout ça devienne une guerre non déclarée entre États-Unis et Russie par Ukraine interposée, qui nous impliquerait également.
Se battre jusqu'au dernier Ukrainien.
On est un peu entre deux chaises, c'est l'impression que ça donne, parce que en fait, il y a deux options. Soit on va jusqu'au bout de la morale et on suit Volodymyr Zelensky jusqu'au bout. Dans ce cas-là, il faut se donner les moyens de le faire. Il faut peut-être que le budget de la défense française, notamment, soit revu très largement à la hausse. Ou alors on dit que Zelensky, il a tort de dire qu'il ne négociera pas. Et la question de continuer à l'accompagner dans cette logique se pose également, Kevin Bossuet.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une forme de contradiction, puisqu'on dit qu'on ne veut pas détruire la Russie et on met en avant l'arme nucléaire. Donc la riposte nucléaire, donc à un moment ça ne tient pas debout. On dit qu'on aide évidemment les Ukrainiens, mais qu'on ne rentre pas directement en guerre avec les Russes. Donc évidemment que ça ne tient pas debout. Je pense que ce qui va se jouer, c'est l'opinion publique. C'est-à-dire c'est au centre de tout.
Et puis se départir de Ursula von der Leyen peut-être un petit peu avant nos propres.
Ce serait
peut-être une bonne chose de sortir un petit peu du dogme de l'Union européenne qu'Emmanuel Macron justement tranche. Soit on y va, soit on arrête de suivre Volodymyr Zelensky.
Quand je dis qu'il y a une lutte des modèles, c'est qu'à l'intérieur de l'Europe même, le modèle occidental, on parlait de la Hongrie tout à l'heure, on peut parler de la Pologne, est remis en question dans sa version capitalisme libéral, etc.
Donc, il y a valeurs, aussi... tout court.
Oui.
Dans sa version wokiste aussi, on peut le remettre en question.
Non, on peut tout remettre en question. Ce que je veux dire, c'est que pour tenir le monde occidental, il a aussi besoin de partager des valeurs. Et donner raison là, et dire, ben, finalement, on ne va pas plus loin, et on laisse Poutine, finalement, il a conquis ces régions, et puis ne disons rien, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Et puis Poutine est devenu quelqu'un de dangereux aux yeux de l'Occident. Il est capable de quoi? On ne le sait pas. Donc vous voyez, moi je pense que vraiment, c'est d'être arrivé à ce niveau-là de tension qui rend certaines choses qui hier étaient possibles aujourd'hui quasiment impossibles.
Un dernier extrait de Vladimir Poutine justement qui accuse les Occidentaux d'être à l'origine du fameux sabotage des gazoducs Nord Stream. Écoutez-le.
Les Anglo-Saxons, eux, ont eu recours à la diversion. Ils ont mis en place peu de sanctions. Ils ont organisé une explosion sur les gazoducs de Nord Stream dans la mer Baltique et ils ont détruit l'infrastructure énergétique de l'Europe. Et il est évident de voir à qui ça bénéficie cela.
Un mot là-dessus, il est en train de nous embrouiller. Quel crédit on peut donner
On ne peut rien dire, on n'a pas les
question.
Éléments.
Je n'en sais rien, personne ne le sait, c'est ça le problème.
Quand même, je voulais attirer votre attention sur un autre point, c'est que justement, Vladimir Poutine, vous avez vu qu'il a tenu un discours anticolonialiste, il a dénoncé le colonialisme de l'Occident. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez marrant, c'est que d'un côté, il dénonce l'effondrement de l'Occident dû au wokisme, et de l'autre, il tient un discours anti-impérialiste et anticolonialiste, qui d'ailleurs est celui de sa jeunesse, de sa jeunesse soviétique. Souvenez-vous, à Moscou, du temps de l'URSS, il y a l'université Patrice Lumumba, du nom de ce révolutionnaire congolais, et qui formait toutes les élites anticoloniales du tiers-monde.
Mais surtout, c'est Poutine qui colonise,
Il reprend le discours de sa jeunesse.
c'est pas de la colonisation, c'est voilà. simplement un retour.
Il reprend le discours
aux origines
de sa jeunesse soviétique. Il dit également que le temps de l'humiliation est fini. Qu'est-ce que c'est que le temps de l'humiliation? C'est le temps des années Eltsine, en fait, de ce qui a suivi immédiatement après l'effondrement de l'URSS et qui était un effacement de la Russie sur la scène internationale. Et ce discours anticolonial, il faut bien le voir que Poutine va aussi le brandir, par exemple, en Afrique, quand en Centrafrique, au Mali, les gouvernements chassent la France, qui pourtant avait bien rendu des services et fait appel aux services des Russes à la place. C'est ça aussi que Poutine brandit, c'est d'essayer de substituer l'influence russe aux influences occidentales, notamment françaises, en Afrique, en taxant la France ou d'autres pays de néocolonialisme.
Qui peut dire ce que Vladimir Poutine prépare ensuite ?
Mais peut-être que lui-même ne le sait pas.
Oui, c'est peut-être encore pire.
Bon, la guerre est tellement pleine d'inconnus.
Si, on sait quand même qu'il va vouloir garder ses régions.
Ah, il va vouloir les garder.
C'est en cela que de suivre Volodymyr Zelensky est de plus en plus risqué.
Il ne tient pas à finir comme les généraux argentins qui ont perdu le pouvoir après leur défaite aux Malouines.
On marque une pause. Vous vous souvenez quand Gérald Darmanin, c'était sur ce plateau d'ailleurs, alors que l'imam Iqiyoussen avait fui alors qu'il devait être expulsé, avait dit que finalement l'islamisme radical avait fui la France et que c'était une très bonne nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle pour Gérald Darmanin. Il est de retour en France, l'imam Iqiyoussen, puisqu'il a été repris dans sa cavale en Belgique. On en parle
déjà,
tout de suite.
Il est revenu en France déjà ?
Il va revenir.
Ah, d'accord.
On y va.
Moi non plus, j'ai pas suivi.
C'est un scoop.
Je croyais que...
La deuxième partie de l'heure des pros, juste après le rappel de l'actualité d'Adrien Spiteri.
À Bruxelles, ce vendredi, les ministres européens de l'énergie ont trouvé un accord. Il concerne des mesures d'urgence pour aider ménages et entreprises à faire face à l'envolée des prix de l'énergie. Objectif, récupérer une partie des super-profits des producteurs pour les redistribuer aux consommateurs. La Pologne distribue des comprimés anti-radiation, une mesure prise en réaction au combat autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Les autorités affirment qu'il s'agit d'une mesure de routine en cas de menace potentielle. Elles affirment qu'il n'y a pour l'heure pas lieu de s'alarmer. Et puis James Webb et Hubble dévoilent des images inédites. Les deux télescopes ont révélé les vues détaillées de l'impact du vaisseau DART de la NASA sur un astéroïde. Ces images aideront les scientifiques à comprendre ce premier test de défense planétaire au monde. Lundi soir, le vaisseau s'était délibérément écrasé dans le but de dévier de son orbite.
De retour avec Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, Jean-Luc Bonamy, Frédéric Durand, l'imam Hassan Iqiyoussen a fini sa cavale. Il a été arrêté à Mons, en Belgique, aujourd'hui, le 30 août dernier. Je vous rappelle que le Conseil d'État avait confirmé l'expulsion du prédicateur qui était resté introuvable depuis. Gérald Darmanin avait fait de l'expulsion de l'imam un symbole de la lutte du gouvernement contre les discours séparatistes, une affaire qui avait tourné au fiasco. Quelle suite désormais pour l'imam Iqiyoussen, donc arrêté aujourd'hui en Belgique? Sandra Buisson nous donne toutes les explications.
L'imam Iqiyoussen a été arrêté en début d'après-midi près de Mons, en Belgique, chez une de ses connaissances, grâce au travail des enquêteurs de la police judiciaire française, appuyés par leurs homologues belges. Il était recherché dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, une infraction qui lui fait encourir jusqu'à 3 ans de prison. Alors, via la coopération judiciaire, la justice belge devrait le remettre aux autorités françaises, mais cela peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines s'il actionne des voies de recours là-bas, ce qui est probable puisque son avocate conteste la validité du mandat d'arrêt européen qui le vise, puisque selon elle, il se fonde sur une infraction qui n'est pas constituée. Une fois remis à la France, il sera présenté au juge d'instruction qui mène les investigations. Il faut savoir que la procédure judiciaire prime sur la procédure administrative. Donc, premier scénario, l'information judiciaire se poursuit, il est éventuellement jugé et quand la peine éventuelle sera purgé, il pourra être expulsé. Autre possibilité, quand il est présenté au juge d'instruction en France, le magistrat peut prononcer un non-lieu. Donc à ce moment-là, la voie judiciaire est éteinte et l'arrêté d'expulsion peut alors être exécuté. L'imam serait alors placé en centre de rétention administrative, le temps de discussion diplomatique avec le Maroc pour tenter de rétablir le fameux laissez-passer consulaire indispensable pour le renvoyer dans ce pays.
Je voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais il n'est pas encore dans l'avion. Moi, je vous le dis, il n'est pas encore expulsé. Est-ce que la République relève la tête avec cette arrestation, Kevin Bossuet?
Oui, je pense qu'elle relève la tête.
Ah bon?
La situation n'était pas normale. Je veux dire, la fuite, la cavale de cet imam, c'était un affront contre la France et un affront contre la République et une remise en cause, finalement, de nos renseignements. Comment on a pu laisser s'enfuir cet individu? Alors maintenant, on l'a retrouvé et il y a fort à parier.
Pardon, Kevin, on avait pris des mesures drastiques pour l'expulser. On le retrouve un mois plus tard. Mons, c'est quelques kilomètres de la frontière. Il était à nos portes.
Non,
ça faisait un mois qu'il était là.
C'est bien une faillite de nos services de renseignement, mais je trouve bien qu'on ait pu retrouver ce dernier. Alors après, on va l'expulser. Mais est-ce qu'il va vraiment être expulsé? Parce qu'on va se buter à une chose qui est l'état de droit. Parce qu'il est évident qu'il va y avoir des recours juridiques sur des recours juridiques. Et je peux vous garantir que cet imam va être sur notre sol encore pendant longtemps. Et autre chose que j'aimerais dire, je regardais les réseaux sociaux. Là, je vois tous ces islamistes qui nous racontent que c'est une chasse contre les musulmans. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Cet imam n'est pas un simple musulman. C'est quelqu'un qui a tenu des propos antisémites, des propos homophobes, des propos sexistes. Donc la vérité, c'est que la République ne chasse pas les musulmans. La République chasse les islamistes. Et moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'on ait pu retrouver ce dernier parce que sa fuite, sa cavale, pour moi, encore une fois, je le redis, c'était un affront contre notre pays.
Certains vont dire, Elisabeth, il devrait être expulsé sans même passer par la case prison pour ce que je vais appeler
le problème, délit
de fuite, entre guillemets, mais pour le moment, il n'y a toujours pas de
laissez-passer avec le Maroc. Il ne sera pas jugé, évidemment, pour ses propos. Je fais juste remarquer au passage à Kevin, qui vient de dire qu'il y avait énormément de gens sur les réseaux sociaux qui dénonçaient cette chasse à l'homme, ce qui est encore une fois de plus un coin, mon cher Kevin, dans votre théorie de la toute petite minorité à côté de l'énorme majorité qui ne pose aucun problème. Passons sur ce point.
Elle est tenace, Elisabeth.
Oui, je suis tenace parce que je pense que le déni va nous mettre encore dans le mur. C'est-à-dire, si on ne mesure pas l'ampleur de l'imprégnation
islamiste... Mais vous la mesurez, l'ampleur
Il y a beaucoup d'études, d'accord. Je vous ai déjà cité ces études, les CNRS, l'Institut Montaigne, etc., etc. Gilles Kepel, qui nous montre que l'imprégnation islamiste, ça n'est malheureusement pas une toute petite minorité, c'est une grosse minorité. Voilà. Ça, et vous pouvez monter et descendre. Ces études n'ont pas été faites par des gens affreux réactionnaires et par la méchante Elisabeth Lévy. Ils ont été faits par des scientifiques extrêmement sérieux. Donc, et qui d'ailleurs étaient tout à fait désolés de leur trouvaille. Sur l'imam Iqi Hussein, moi je faisais partie des gens qui disaient qu'il y avait une sorte de paradoxe, si vous voulez, à aller le chercher absolument pour pouvoir le remettre dehors, en quelque sorte.
Oui,
et qu'il y avait un avantage à sa cavale, c'est qu'il me la fermait. Il se la fermait. Et comme l'a par excellemment la journée.
Il est de retour.
Comme je rejoins Kevin, là, vous allez voir que l'état de droit va se déployer en plus en deux fois, parce qu'il y a l'état de droit en Belgique aussi, qu'est-ce que vous croyez? Donc, va se déployer dans toute sa splendeur et que, avant que...
On va dire que dans le pire des cas, avec le droit belge, dans quelques semaines, il sera en
D'accord,
France.
Mais ça fait déjà quelques semaines. Ensuite, il y a chez nous, et puis après, il y a la question à...
Non, mais c'est vrai que c'est loin d'être terminé.
Il y a la question à beaucoup plus que 1000 euros, qui est-ce que les Marocains, qui font toujours... Ça se passe un peu mieux en ce moment avec l'Algérie, mais en revanche, les Marocains font toujours un peu les pieds au mur pour reprendre leurs expulsés, si je puis m'exprimer ainsi.
Il va falloir suivre les négociations avec le Maroc.
Moi, je suis comme vous. J'ai très envie, pour la France, de voir cet imam entre deux policiers, accueilli par deux gendarmes ou deux policiers marocains à sa descente de l'avion. Eh ben, comme Kevin, malheureusement, je pense que c'est pas pour demain.
Je disais, alors, Frédéric d'abord et Jean-Louis ensuite, je disais qu'il va falloir suivre les négociations avec le Maroc, parce que si ça n'aboutit pas, là, c'est l'humiliation suprême pour la France. S'il n'y a pas de laisser-passer... Alors, c'est tellement une affaire d'État qu'a priori, ce serait quand même complètement fou que le Maroc ne donne pas de laisser-passer. Mais si c'est le cas, c'est l'humiliation suprême pour la France.
Deux choses. La première, pour relativiser un peu ce que disait Elisabeth Lévy, il y a une manifestation qui a été organisée en soutien à l'imam Iqi Hussein en France. Il n'y avait personne. C'était totalement ridicule.
C'était personne. Place de la République, il y avait quelques dizaines de personnes.
Je ne parlais pas de l'imam Iqi Hussein, je parlais de l'imprégnation islamiste.
Mais vous êtes servi de ça pour dire à un moment donné, justement, ça prouve que. L'inverse.
Je me sers d'études. Je me sers d'études. Vous préférez croire vos manifs que les études.
Les études, on les trouve jamais.
Je préfère pas.
Moi, je suis curieux de les voir.
Pardon.
Je préfère
faire.
Ah non, mais alors, l'émission est courte, vous le savez, donc écoutez-vous, s'il vous plaît. Frédéric.
Moi, je ne démens pas les études. Je dis juste que l'un des signes qui vient contredire, pour partie au moins, ce que dit Elisabeth Lévy, c'est que si c'était vrai et que l'imprégnation était telle, à ce moment-là, nous aurions eu des milliers, voire des centaines de milliers de personnes.
Donc, il n'y a pas d'imprégnation.
Non.
D'accord.
C'est une question de niveau. C'est que je pense qu'on n'apprécie pas les choses au même niveau. Ben voilà, on a le droit. C'est comme ça. Vous avez vos études. Il y a aussi la réalité de ce qu'a donné la manifestation de soutien. Par ailleurs, effectivement, on a eu plus de mois maintenant pour obtenir ce laissez-passer consulaire qui était suspendu. Mmh. Alors, on veut bien comprendre qu'il y a eu une incompréhension sur le moment. Gérald Darmanin est venu l'expliquer sur votre plateau, qu'il y a eu un petit flottement, mais que c'était en train de se régler. On parle de ça il y a un mois, puisqu'il est venu après la fuite de l'imam. Donc, normalement, ça, c'est réglé. Je vais dire, ça, on peut considérer que c'est réglé. Ensuite, il y a eu un délit. Forcément, ce délit est puni à un moment donné. C'est très difficile, parce qu'on a un vrai problème de ce point de vue-là, j'accepte. Si quelqu'un qui est en situation irrégulière tue quelqu'un sur le territoire français, ben il n'est pas renvoyé, il est en prison. Parce qu'il doit être jugé.
Oui, mais là,
ça, c'est une question de point de vue.
C'est
hein.
Ça qui est marrant.
Non, c'est un délit. Oui, complètement.
Doit-il passer que ça... par la case prison parce que la France doit s'honorer en jugeant ceux qui commettent des crimes sur son sol ou doit-on le renvoyer directement? Ça, c'est une question de point de vue.
Reconnaissons que c'est un vrai problème. Parce
bien
que
sûr
sinon,
que c'est un problème.
Il pourrait se passer n'importe quoi et on dit, bah non, on expulse et on ne juge pas et on ne met pas en prison. Donc voilà. Et donc là, on risque, effectivement, là, je vous rejoins, d'avoir ce problème-là qui fait que ce délit de fuite, d'une manière ou d'une autre, devra être puni avant l'expulsion.
Mais après, la justice pénale et administrative peuvent se mettre d'accord. Il y a un moment, le juge va prononcer un non-lieu ou classera l'affaire pour que l'administratif reprenne le dessus et qu'il soit rapidement expulsable. Un mot là-dessus.
Alors moi déjà, je suis...
Quelle contrepartie, pardon, juste une question, quelle contrepartie pour le Maroc? Parce que ça va se jouer comme ça. Ça va jouer forcément.
Parce qu'ils attendent une visite du président.
Des visas, mais ça va se jouer.
Non,
ça peut être une visite, ça peut être des visas, ça peut être...
Une visite du président au roi?
Je pense que c'est ça qu'ils veulent.
Ça peut être une... Voilà, puisque Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie, donc les Marocains sont très jaloux.
Voilà.
Donc ça peut être une visite présidentielle, ça peut être des visas, ça peut être un positionnement par rapport aux relations Maroc-Algérie.
Mais il va falloir céder quelque chose.
Voilà. Mais moi, je suis très amusé, très surpris de voir cet imam... musulman, non seulement musulman, mais en plus islamiste, de voir quand même la difficulté qu'il a à aller vivre dans un pays musulman. Tout d'un coup, on découvre qu'il est très attaché à la France, qu'il est prêt à s'enfuir, à se cacher. On dirait vraiment qu'il s'accroche au barreau de son lit et qu'on doit le tirer pour l'envoyer vivre en terre d'islam. C'est vraiment très curieux.
Parce qu'il sait ce qu'il l'attend au Maroc, où il n'a pas été tendre avec Mohamed VI, je crois d'ailleurs.
Vous mettez le doigt sur une vraie question. Mais en tout cas, je remarque la difficulté que ce monsieur a à aller vivre en terre d'islam. C'est quand même un peu curieux.
Je vais vous offrir...
Allez, dernier mot, parce qu'on a un sujet encore après.
Ensuite,
non, je vais vous
également, j'ai vu qu'il y avait eu des gens qui s'étaient des partisans, de naïfs partisans de l'imam qui avait fait une cagnotte de soutien sur les réseaux sociaux. Il y avait eu quelques dizaines de milliers d'euros. Le seul problème, c'est qu'on a révélé que cet imam est fort riche, qu'il est millionnaire, qu'il a une très grande propriété avec des dizaines de pièces et que ça a pris un temps fou d'ailleurs à la police pour fouiller toute la propriété tellement elle est vaste. Parce qu'en fait, l'islamisme, que ce soit dans les pays occidentaux ou dans les pays musulmans, est un business. Et ce monsieur, si on l'expulse, ce n'est pas simplement à cause des propos antisémites ou sexistes qu'il a tenus, c'est parce que c'est depuis des décennies l'un des principaux acteurs de la diffusion de l'idéologie islamiste, de l'imprégnation islamiste, et qu'avec, il fait de l'argent.
Et avec ce type d'histoire, on comprend, avec ce type d'histoire, pour faire un tout petit pas de recul, on comprend pourquoi on est à peine à 20% d'OQTF dans ce pays.
Oui, c'est
un dossier qui est mal ficelé du début à la fin.
Un mot pour vous répondre.
17%, je crois.
Je vais vous offrir aussi un livre qui s'appelle Une chambre en ville, je crois, quelque chose comme ça. C'est de Omar Souleyman, qui est un Syrien, qui a été assez près du djihadisme, hein, etc. Et un jour, il s'est retrouvé à Bobigny. Il a obtenu le statut de réfugié en France. C'est quelqu'un d'assez courageux, qui écrit un très bon français. Il s'est retrouvé à Bobigny. Et à Bobigny, si vous voulez, il a trouvé à peu près la même chose. Donc ne vous inquiétez pas, à Roubaix, je veux dire, il était... aussi en milieu, si vous voulez, rappelez-vous les petites filles voilées.
Oui, mais avec beaucoup plus de
rappelez-vous les poupées voilées.
Vous pouvez pas dire ça, Elisabeth.
Rappelez-vous les poupées voilées.
Non, mais d'accord, mais ça n'a rien à voir.
Dans le magasin de Roubaix.
Non, mais beaucoup plus. C'est pas des poupées voilées, c'est des poupées sans visage.
Non, mais on ne peut pas dire ça.
Pas en même temps.
Moi, je suis d'accord avec Jean-Louis Bonamy. Les promoteurs de cet islam hyper radical sont les derniers à vouloir vivre et à vouloir subir les principes.
Et pour eux, c'est un business. Un business
lucratif. Et donc, effectivement, même vivre à Roubaix, ça n'a rien à voir de vivre de
la charia. Je suis désolé. La polémique autour du préfet de l'Hérault qui s'appelle Moutou, le préfet de l'Hérault. Le lien entre délinquance et migrants fait toujours polémique dès lors qu'il est évoqué. On en vient à ce tweet donc publié par ce préfet hier. Il a d'ailleurs été supprimé rapidement, signe du malaise qu'il a suscité. Il a écrit « Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier. 104 gardes à vue depuis août. Algériens et Marocains en majorité, responsables de nombreux vols et violences avec armes. Nous serons intraitables. Les CRS ont instruction de ne pas les lâcher. Ils ne sont pas les bienvenus. » Un tweet qui fait le lien sans ambiguïté. Donc Elisabeth, je sais que
vous avez commencé. Et qui rapporte des faits.
Entre délinquance et SDF étrangers, un tweet qui désigne des nationalités. Certains disent aujourd'hui c'était un tweet raciste qui stigmatise les migrants.
Bien sûr, écoutez, que ces gens-là prennent dans leur jardin des SDF délinquants en situation irrégulière. Le dernier, un des derniers qui a été arrêté, qui a d'ailleurs été déclaré irresponsable, avait d'ailleurs attaqué un Mahorais. Vous voyez, si vous voulez, à quel point on est dans des questions de racisme. Si vous voulez, c'est évidemment. Moi, il se trouve que je le connais parce que je vais au corrida à Béziers et que. Il y est habité en tant qu'escalité, que j'ai donc eu l'occasion de parler avec lui. Effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui dit ce qu'il pense.
On l'appelle le préfet bulldozer.
Et je pense qu'il a voulu, effectivement, je pense d'abord qu'il a un grand succès auprès des maires de l'Hérault. Parce
le préfet peut donner son avis de cette façon ? Parce que d'une certaine façon, il y a de la subjectivité.
Là, je pense qu'il a voulu marquer le coup. Effectivement, il a peut-être enfreint son devoir de réserve. Ça, c'est Kevin connaît certainement ça mieux que moi. Mais peut-être l'a-t-il fait, mais il n'empêche que les tweets dégoûtants et stupides de toute la France insoumise qui lui est tombée dessus, moi, je propose qu'on aille installer devant chez M. Mélenchon, devant chez Mme Panot, tous les...
Non, mais parce il n'y a pas que la France insoumise qui a réagi.
Oublié, il a juste oublié, en plus de dire, il aurait fallu dire qu'ils sont en situation irrégulière. Ouais. C'est des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français.
Pour l'avocate de la Ligue des droits de l'homme de Montpellier, ses propos sont à la limite de l'indignité, comme s'il y avait une délinquance spécifique au personnes étrangères et sans domicile fixe. Autre son de cloche évidemment pour Éric Zemmour qui tweet bravo au préfet de l'Hérault qui a dit la vérité avant de supprimer sa publication. Sans doute la vérité fait-elle peur
à sa hiérarchie. Je ne suis
pas sûr que le tweet de Zemmour qui a déclenché le scandale.
Oui, je ne suis pas sûr que ça l'aide. Hein.
Non, c'est la vérité qui est indigne. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être encore dans les années 80 où cette gauche bien pensante ne fait pas le lien entre immigration et insécurité. Mais c'est une réalité. Pour le coup, il y a un sociologue
qui a travaillé
là-dessus.
Mais c'est les questions d'amalgame qui posent problème, Kevin. Vous le savez bien.
Mais il a fait aucun amalgame.
Prenez les études du sociologue Hugues Lagrange
qui a écrit un très bon ouvrage, Gérard Darmanin.
Le déni des cultures, il montre ce lien-là. Regardez, dans nos prisons, il y a une surreprésentation des étrangers par rapport à la population totale. Donc à un moment, évidemment qu'il y a des facteurs culturels à la délinquance et je ne comprends même pas pourquoi on les nie. Et quand on parle à ces bons gens de gauche qui s'émeuvent sur Twitter et qu'on leur parle en privé, la vérité, c'est qu'ils ne veulent pas habiter dans des quartiers où il y a une surreprésentation d'étrangers.
La vérité, c'est
des gens qui sont hypocrites. Ils nous racontent que ça existe, mais dès qu'il y a une caméra ou dès qu'ils sont sur Twitter, ils nous racontent le contraire. Mais c'est impossible. Enfin, et c'est pour ça qu'il y a une distanciation entre le peuple et la gauche. La clé est là.
Frédéric Durand, je rappelle les propos de Gérald Darmanin dans le JDD en août dernier. À Paris, les étrangers représentent 48% des gens interpellés pour des actes de délinquance, 55% à Marseille, 39% à Lyon. Ce ne sont pas des sentiments, ce sont des chiffres du ministre de l'Intérieur.
Oui, et d'ailleurs, personne ne défend les délinquants étrangers. En France, personne ne les défend. Après, il y a une chose, c'est que moi, je me refuse d'associer l'immigration à la délinquance. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de gens qui immigrent pour des raisons économiques et qui ne sont pas automatiquement, et ça existe depuis très longtemps en France, d'ailleurs.
Mais personne ne fait ça.
Tant mieux.
C'est pas dans ce sens-là qu'on l'a fait, c'est dans l'autre sens. C'est qu'une grande partie de la délinquance vient de l'immigration.
Il faut laisser terminer l'interlocuteur.
C'est pas dans le sens où une grande partie des immigrés...
Est-ce que vous pouvez laisser finir, Frédéric?
Oui, mais quand même, c'est important de préciser ce point.
Mais bien, moi, je veux préciser, puisque j'ai dit que je ne défendais pas les délinquants étrangers. Quant à dire que, par nature, l'immigré est un délinquant, je ne suis pas d'accord avec ce qui est quasiment supposé aujourd'hui. Mais c'est ça la différence.
Non,
c'est
tout. Je suis pas d'accord.
Non, mais écoutez, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est pas un problème. Au contraire, non, ça
vous
permet.
Vous n'êtes pas d'accord avec la réalité, ça c'est encore autre chose.
Non, mais ne pas être d'accord avec la réalité supposerait que vous la déteniez. La vérité. Donc, vous ne la détenez pas. Donc, si vous ne la détenez pas, ça veut dire que j'ai un point de vue et je me refuse à cet amalgame-là. Partant de là, je suis tout à fait d'accord avec le fait que, y compris les classes populaires, sont les premières à subir, comme on va me répondre assez durement, je pense que je vais pouvoir reprendre la parole derrière, mais voilà, il y a le type d'amalgame qu'il ne faut, à mon sens, pas faire. Il y a des gens, tout simplement, ils partent de leur pays parce qu'ils crèvent de faim. Lorsqu'ils arrivent en France, est-ce que ça veut dire qu'ils sont automatiquement...
Non, mais alors, pardon, je vous...
Ils n'en font pas d'amalgame. D'ailleurs, il a précisé. Je voudrais juste rappeler que ce monsieur, Umutu, a donné une interview également au Midi Libre, en rappelant que nous avons, je le cite, un problème avec la délinquance étrangère. Au mois de juillet, dit-il, à Montpellier, 48% des gardés à vue étaient de nationalité étrangère. Deux tiers sont originaires du Maroc et d'Algérie, avec une majorité de personnes en situation régulière. Il dit néanmoins qu'il est impossible d'assimiler immigration avec délinquance, ce qui veut dire qu'il ne fait pas d'amalgame.
Je voudrais répondre à Frédéric. Non, mais au-delà, Frédéric, tu as dit une chose qui me semble importante pour nous tous de rectifier. Personne, ni sur ce plateau, ni ailleurs d'ailleurs, ne dit que tous les immigrés ou que la majorité des immigrés sont délinquants.
Si, ça se non. dit. Alors là, moi, je le dis tous les jours sur les réseaux sociaux.
Laisse-moi finir ma phrase. Ma phrase, c'est qu'on dit en revanche le contraire. C'est-à-dire, l'inverse est vrai en revanche. C'est qu'une grande partie des délinquants sont étrangers ou d'origine étrangère récente. Et il suffit d'aller dans un commissariat ou dans une prison pour le savoir.
Évidemment.
Donc, c'est pas la même chose de dire que dans la population des délinquants, qui est quand même une minorité, encore heureux, les immigrés constituent la majorité ou une grande partie de cette population, que de dire ou de faire dire à des gens... Voilà.
Il nous reste deux minutes. S'il vous plaît, juste deux dernières prises de parole, rapides.
Moi, ce qui me fait mourir de rire, c'est cette gauche qui prétend lutter contre l'extrême droite alors qu'elle ne fait que la renforcer. Regardez ce qui s'est passé en Suède. 20% des Suédois aujourd'hui sont nés à l'étranger. Et on a vu une explosion des viols, une explosion de la délinquance. Et c'est pour ça que les Suédois ont voté pour une alliance entre la droite et la droite radicale. Donc la gauche, finalement, est celle qui fait monter cette droite qu'elle prétend combattre. Enfin, ça n'a aucun sens.
Jean-Loup.
Ce préfet aurait été raciste. Il avait inventé ou truqué ces chiffres. Or, ces chiffres ne sont qu'une simple description de la réalité objective.
Voilà. Mais en fait,
il y a un phénomène qu'on comprend assez mal, c'est que dans les pays du Maghreb, aussi dans les pays africains, vous avez un phénomène social, qu'est-ce qu'on appelle les hittistes. Les hittistes, c'est les jeunes chômeurs
qui tiennent les murs.
Hein, parce qu'ils passent leur journée le long des murs.
Il faut que Frédéric réponde.
Simplement, ils sont... ils viennent, ce sont eux qui viennent en France et qui constituent ces populations de SDF d'origine marocaine ou algérienne. C'est-à-dire, on ferait venir un gars qui sera agriculteur, plombier ou médecin,
ça se passerait mieux. Sans que Frédéric réponde.
Juste deux mots. C'est que il n'y a pas d'un côté sur ce plateau les clairvoyants et les aveugles. Moi, je suis parfaitement au courant, aussi bien que vous, parce que j'ai vécu 10 ans en banlieue, de certains problèmes qui se passent. Lorsqu'Elisabeth dit, personne ne dit, moi je vous dis, Elisabeth, vous ne le dites pas peut-être, mais ça se dit, et moi sur les réseaux sociaux, je le vois tous les jours, immigré égale délinquant, je le vois tous les jours. C'est ça que je conteste, pas du tout les propos que peut tenir le préfet, qui lui, justement, va jusqu'à préciser, et Darmanin, qu'il n'y a pas d'amalgame à faire. Voilà, donc il n'y a pas d'un côté les clairvoyants, de l'autre côté les aveugles. Je n'accepte pas ce procès-là.
C'était le mot de la fin, il était...
Musclé.
Musclé. Ça va, Frédéric ?
Ça va, très bien.
On respire ?
Oui.
On va discuter après, on va se serrer la main, tout va bien se passer.
Mais c'est toujours comme ça. Vous savez que la définition de l'amitié, c'est des gens avec qui on peut s'engueuler.
C'est vrai.
Se faire la mise en sortant.
Et on peut se réconcilier autour d'une image sympathique pour finir.
Vous avez une image sympathique dans cette
actualité,
ça c'est étonnant.
On a les premières pièces avec l'effigie de Charles. Vous savez, elles vont être mises en circulation. Regardez, elles ont été dévoilées aujourd'hui. Le portrait de Charles III pour les futures pièces de monnaie à son effigie dévoilées par le Royal Mint, l'organisme chargé de battre la monnaie britannique depuis 11 siècles.
Il faut garder des pièces avec Elisabeth.
Ben, il y en a, en tout cas dans cette première série. Dans cette première série, sur le côté pile, vous avez également un hommage à la reine Elisabeth. Et vous voyez ces inscriptions, si on peut remettre très rapidement des inscriptions en latin, ce qui signifie « Roi Charles III par la grâce de Dieu, défenseur de la foi », qui constitue l'un des titres du souverain. Toutes les pièces britanniques à l'effigie d'Elisabeth vont rester légales et en circulation, parce qu'il y en a quand même 27 milliards au Royaume-Uni. Donc, il va falloir un petit peu de temps avant de les remplacer. Au fil du temps, ça se fera lorsqu'elles seront abîmées. Elle vous plaît, cette petite pièce ? Sympa le profil. Il regarde vers la gauche alors qu'Elisabeth regardait vers la droite.
Ouais, c'est quand même mieux que les euros, franchement.
C'est vrai. Ça plaît plus à Frédéric. Il regarde vers la gauche.
Je suis d'accord.
C'est vrai que c'est joli. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Merci à tous les quatre. Je vais remercier évidemment tous nos amis si évidemment le message veut s'ouvrir. Voilà, à la réalisation Jean-Luc Lombard, qu'on remercie. À la vision Philippe, au son Greg Posidalo, et Baptiste Bourdin, Benjamin No, Léo Marcheuillet, Kylian Salé, Quentin Goffet. On croirait pas qu'on est aussi nombreux pour préparer cette émission, mais si c'est le cas. Merci à tous. C'est Elliot Deval qui arrive juste. Non, c'est Olivier Benkemoun. Olivier Benkemoun, évidemment, pour le meilleur de l'info. Et puis il viendra Soir Info avec Elliot Deval. J'aurai le plaisir de vous retrouver justement dans Soir Info dès lundi. Très bon week-end.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.